Le public n'a pas, comme dans les autres arts, une connaissance suffisante de l'histoire de la danse.
Pendant le festival Montpellier Danse,
saut de bichet, entrechat,
chorégraphes, danseurs et festivaliers sont sur Divergence.
C'est là qu'il y a les plus profondes chances de créativité.
Divergence.
Je crois que les gens doivent se servir de la danse pour exprimer leurs propres idées.
Les grands noms de la danse acceptent de se produire.
Dominique Bagué,
Philippe Découflé,
Montpellier Danse,
Pina Bausch,
Nagui Marin,
Raymond Hogue,
William Forsythe.
Mais j'ajouterais ceci.
On voit ce qu'est vraiment la danse.
Attitude, énergie, fluidité, écoute, équilibre, spirale,
courbe,
arabesque, sensation.
Bonjour, c'est l'émission du mercredi 27 juin. Émission quotidienne du lundi au vendredi, donc Montpellier Danse, avec hier au festival la présentation de la pièce Yes We Can't de William Forsythe, qui n'a pas laissé indifférent, et c'est plutôt bien finalement quand ça se passe dans un festival, parce qu'il y a ceux qui détestent et puis il y a ceux qui aiment beaucoup, et en tout cas il y avait beaucoup de sourires à la sortie de cette pièce. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de retour, je les ferai ce soir et donc on pourra les écouter demain. Sinon aujourd'hui, eh bien, comme c'est mercredi, on va dire que c'est le cinéma qui nous importe aussi, et il se trouve qu'il y a une programmation cinéma iranien pour ce festival Montpellier Danse. Donc nous en parlerons avec une spécialiste de ce cinéma. Mais on va débuter avec Raymond Hogue. Raymond Hogue qui présente Pas de deux. Ce soir et demain, et donc Pas de deux, c'est un mot emblématique de la danse classique virtuose du 19e siècle qui désigne le moment de bravoure du couple dans les ballets, et le chorégraphe allemand s'en empare avec le danseur japonais Takeshi Ueno. On l'écoute.
Kazuo était quelqu'un que j'ai connu longtemps. J'ai vu au début dans les années 80 et j'écrivais sur lui. Et donc durant ces après-midi dont vous parlez, je montrais ces films très impressionnants. Malheureusement, il est mort. Et donc c'est vrai que ça a été une grande influence et j'en ai eu beaucoup comme Spino et d'autres depuis. Et jusqu'à Takeshi, que j'ai rencontré il y a 2 ans au Japon, qui est aujourd'hui aussi une influence. On ne pense pas au fait qu'il soit japonais et je sois allemand. On est d'abord des êtres humains. On ne pense pas au fait que nos peaux ne soient pas de la même couleur ou qu'on n'a pas le même âge. Et dans notre relation, j'ai l'impression que ce soit mon frère. C'est très étrange comme relation. Et j'ai une relation différente avec tous les danseurs, mais dans celui-là, j'ai l'impression d'être frère, et donc oui, c'est très étrange. Ça fait partie de la pièce, ce pas de deux, ce très étrange pas de deux. Il y a aussi l'idée de l'histoire. En fait, je prends des choses oubliées pour les intégrer dans la pièce. Par exemple, il y a des choses qu'il ne savait pas, qu'il a appris au travers du travail de cette pièce. Par exemple, le kimono et comment on attache le kimono, il ne savait pas. Donc, la pièce, c'est ce souvenir de l'histoire. La pièce parle aussi de la beauté. Donc, et non seulement la beauté, mais la même année, on était en train de le créer, il y a eu Fukushima. Et donc, on a intégré Fukushima, Hiroshima, Tchernobyl. Donc, ce n'est pas juste une question d'esthétique. Il y en a qui disent que c'est très difficile. Mais on essaie d'intégrer tout ça.
C'est très beau ici.
Aussi, on est dans un endroit magnifique, très beau, où on a beaucoup de fenêtres et on regarde à travers ces fenêtres dans le studio et on voit que le ciel. Et donc, il y a un lien dans la pièce de la beauté qui existe dans la pièce et de la réalité en dehors. Alors oui, depuis le début, il y a 10 ans, j'ai essayé de travailler sur des pièces plus restreintes, plus petites. Donc c'est important de travailler dans ces différents formats, de travailler en solo, en duo. C'est très lourd de toujours travailler dans des grandes compagnies. C'était difficile pour Pina et moi de toujours avoir 25 personnes en charge. Donc c'est bien de changer, c'est bien de travailler avec ces différents formats. C'est important pour un artiste d'avoir cette possibilité afin de développer son travail.
Montpellier,
c'est plus que ça. Montpellier, c'est les gens dans la rue. Il y a une histoire avec une femme que je connaissais dans une pharmacie. Et je voulais un parfum et qu'elle n'avait pas, qu'elle allait chercher à Paris et ensuite qu'elle a fait cadeau en disant que non, je viens voir toutes vos pièces, merci de ce que vous faites, qui sont très, très heureux de les accueillir ici. Donc c'est vraiment les personnes d'ici à Montpellier, c'est plutôt unique au monde. On est, moi et mes danseurs aussi, impressionnés, on était impressionnés par ce cadeau et cet accueil.
Voilà, c'était Bach, hein, qui sera effectivement dans la pièce Pas de deux de Raymond Hauge. Il y aura aussi du Mozart, du Kurt Weill. Enfin voilà, je ne savais pas exactement ce que c'était, donc je me suis dit, je vais mettre le clavier bien tempéré. Pas de deux, c'est joué ce soir, mercredi 27, et puis demain, jeudi 28, à 22h, studio Bagué. Et puis, à noter qu'il y a une représentation supplémentaire le jeudi 28 juin, donc demain à 15h, et toujours au studio Bagué. On passe maintenant au panorama du cinéma iranien. Tous les jours, le festival vous invite à des projections de films iraniens. Alors, évidemment, l'Iran n'est pas la Méditerranée, mais pour Jean-Paul Montanari, le directeur du festival, eh bien, ce qui l'intéresse, lui, ce sont les artistes. Et le cinéma iranien propose, selon lui, une réflexion sur le corps et le pouvoir. C'est Agnès De Victor, maître de conférences et spécialiste du cinéma iranien, qui nous parle de sa sélection.
Quand M. Montanari m'a contacté et m'a proposé de faire cette programmation, j'ai trouvé que c'était un lieu qui permettait de redéfinir ce qu'était le cinéma iranien et ce qui en faisait sa force, ce qui en faisait ses éléments de créativité les plus fortes, qui ont beaucoup à voir avec le corps, avec l'incarnation, voire avec la danse, avec ce que l'on voit ici. C'est un cinéma qui commence à être très connu. Quand M. Montanari m'a proposé cette programmation, c'était au moment où peut-être vous avez peut-être vu Une séparation, La séparation, crever les écrans un peu partout dans le monde. Je me disais, mais ce qui fait la force de ce cinéma, ce sont les réalisateurs qui, sans l'aide du scénario, sans effet de scénario, uniquement par ce qui est spécifique au cinéma, c'est-à-dire enregistrer des corps dans le temps et dans l'espace, en leur laissant l'existence, en les laissant exister à l'écran, que ce cinéma devenait le plus fort d'un point de vue formel, d'un point de vue créatif, mais aussi d'un point de vue politique. Vous le disiez, la République islamique d'Iran, c'est le pays, je pourrais dire un peu en private joke avec les États-Unis, mais bon, ça leur ferait pas plaisir, mais qui ont créé le code de censure le plus étroit concernant le corps, le contrôle du corps à l'écran, et notamment le contrôle du corps des femmes. Donc on a eu un système de censure à partir des années 80 qui a tenté d'enlever dans la projection, d'enlever dans les films ce qu'était la sensualité féminine. Pourquoi ? Parce que la terreur, c'était que l'on voit dans un espace public, une salle de cinéma, où vous allez au cinéma, pas forcément avec votre grand-père, votre mari et votre frère, mais avec des gens que vous ne connaissez pas, de partager des plaisirs, des émotions intimes dans un espace public. Et ça a été un des grands enjeux de ce cinéma-là. Ça a été de limiter cette présence charnelle des femmes à l'écran. Donc tout d'abord, tout simplement éliminer des films, les 4-5 premières années du régime. Et puis avec le code de censure qui précise un petit peu ce qu'elles avaient droit, ce à quoi elles avaient droit, elles ont regagné les écrans. Et les très grands réalisateurs, je pense les plus grands filmeurs, on pourrait dire, du cinéma iranien, sont ceux qui, tout en respectant le code de censure, d'accord, vous voulez une femme habillée avec un manteau, avec un foulard, ok, vous voulez pas qu'elle touche son mari, son enfant, son fils, son grand-père, etc., pas de problème. Et pourtant, moi, grand cinéaste, je vais vous montrer ce que c'est qu'un corps de femme, ce que c'est qu'un corps qui respire, qui boit la lumière, qui se déplace, qui, par son corps, oppose éventuellement une résistance à la politique, aux traditions, etc. Et c'est vraiment comment le cinéma est arrivé à rendre cette sensualité, cette présence, et ça a beaucoup à voir avec le mouvement, et ça a été l'enjeu de cette programmation. Et je dois le dire, Jean-Paul Montanari m'a laissé les mains libres en montrant des films très courageux d'un point de vue politique, mais aussi narratif, des films qui sont très souvent censurés aussi par la censure économique, avec des distributeurs qui ne veulent pas montrer des films, qui ne feront pas des salles pleines, qui ne sont pas consensuels, mais qui inventent des nouvelles façons de parler, de la société, de l'amour, de l'érotisme, avec des moyens donc purement cinématographiques. L'enjeu de cette programmation, c'est de montrer différents auteurs qui vont se risquer sur ces territoires-là, ces territoires, je dirais, d'une narration plastique des corps. Et un des grands enjeux, je crois que c'est vraiment l'espace et le temps. C'est filmé, là j'y repensais ce matin, dans, peut-être le, pour prendre un exemple, hein, pour ceux qui iraient voir Le Cercle de Jafar Panahi, qui raconte l'histoire de jeunes femmes qui sortent de prison. Et on a des plans qui sont très proches de ceux que Godard filme quand il filme Jan Seberg sur les Champs-Élysées, simplement, qui crie « Herald Tribune, Herald Tribune » en vendant le journal, et où on a cette liberté, cette présence sensuelle, physique, charnelle, un des plus beaux corps du cinéma. Et Panahi fait finalement quelque chose de très semblable. Il filme une jeune fille qui sort de prison et on a son corps qui boit la lumière et tout d'un coup, comme un tournesol, parce qu'il y a de la lumière, tout d'un coup, on a l'impression que son corps reprend de l'espace, reprend sa place dans la société. La prison, c'est une privation de temps et d'espace. Et Panahi, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas utiliser le dialogue, il ne va pas utiliser la narration, il n'utilise pas le scénario. Il utilise sa caméra pour montrer, parce qu'il prend le temps, et il filme dans l'espace ce corps qui, tout d'un coup, se déploie. Mon grand danger, ce qui me fait toujours peur, c'est quand on dit « c'est grâce à la censure qu'il y a un très bon cinéma en Iran ». Non, toute forme de censure est amputation, est dangereuse. Il y a différentes sortes de censure. Je crois qu'il y a un territoire de l'image qui est très fort en Iran, un territoire aussi du corps. Et je crois que là, il y a eu un croisement à un moment donné de ces différents éléments qui ont permis à cette cinématographie d'atteindre sans doute un dépassement de soi et en tous les cas d'être une des plus vivantes de la région. Oui, c'est une question d'incarnation, mais on a beaucoup de films aujourd'hui qui nous privent de ça. Donc là, c'est un peu nous rendre aussi notre part de spectateur, hein, et notre part aussi de spectateur, nous laisser le temps de tisser des liens avec ces corps, avec ces gens, avec ces intimités-là, et spécifiquement avec ces corps iraniens qui sont, et ces corps de femmes, hein, en Iran, qui sont sans arrêt mis à l'écart, encadrés dans des normes, dans des dispositifs. Et là, soudain, c'est comme si le cinéma, voilà, il y avait une présence irréductible à toute forme de censure, parce que ils respectent, hein, le film de Panahi, les films de Kiarostami que vous verrez, les films de Mazyar Miri, enfin tous ceux qui sont présentés, sont tous ces films-là sont des films qui ont eu leur visa de projection, hein, sont tous des films qui respectent le code de censure et qui le débordent, et qui montrent qu'on ne peut pas, il y a quelque chose qui va toujours échapper à partir du moment où on sait filmer. Alors, ce n'est pas tout le cinéma iranien, ce n'est pas tous les films, mais en tous les cas, ça a été le pari de cette programmation. Ce n'est pas forcément les plus beaux films et les plus grands films du cinéma iranien. Ce sont deux très grands films, sans doute parmi les plus beaux chefs-d'œuvre malgré tout, mais qui, en tous les cas, ont tous pris ce pari-là de travailler à cette incarnation charnelle. Et je trouve que c'est très, très beau de le montrer dans le cadre d'un festival de danse.
C'est Agnès De Victor donc, qui a fait cette programmation du cinéma iranien. Vous le retrouvez tous les jours, salle Béjart, mais aussi médiathèque de Castries et Clapiers. Alors le plus simple, c'est quand même d'aller sur le site montpellierdanse.com pour avoir toute cette programmation et tenter de vous faire une toile. À noter qu'il y aura aussi à la clôture du festival le 7 juillet, ça promet d'être plutôt bien. Ce sera à l'Agora et là, pour le coup, c'est du cinéma plein air. Ce sera une nuit du cinéma iranien. On termine cette émission. Alors, donc, je n'ai pas pu faire de retour hier public, hein, sur la présentation de Yes We Can't de William Forsythe. Donc, on va réécouter un petit extrait de la présentation de cette pièce par son chorégraphe. C'était hier.
Welcome to what is the topic?
It's not very complicated. The piece is also incredibly stupid.
Alors, la pièce n'est pas très compliquée. Elle est incroyablement bête, en fait. Il n'est pas très sophistiqué. La seule sophistication, c'est un peu plus tard quand le sujet se dévoile, que l'on commence à comprendre le but de la pièce.
So it's not sophisticated for about half an hour.
Donc pendant au moins une demi-heure, ce n'est pas sophistiqué. Et je reviens parce que vous avez dit qu'il ne peut pas vraiment l'expliquer maintenant, il faudrait le voir.
And then maybe it's sophisticated for like 10 minutes.
Et peut-être que la pièce devient sophistiquée pendant 10 minutes où il n'y a pas de danse. Et après, si possible, il devient encore moins sophistiqué.
Je suis désolé.
C'est 20h à l'Opéra Berlioz ce soir. William Forsythe, Yes Weekend.
Montpellier entre dans la danse. Chorégraphes, danseurs et festivaliers sont sur Divergence.
La culture est en de bonnes mains, m'a-t-on dit.
Ce processus obsessif, c'est du fromage.
On se retrouve demain avec Ali Moigny et puis aussi le collectif d'Otan, trois mouvements qui présenteront eh bien, leur pièce pour la toute première fois demain. Et sinon ce soir, donc, c'est Raymond Hauge et William Forsythe.